Oh là là, mais quel bazar! Ça peut plus durer, hein!
Il y a du tarpin sur la planche, vous allez voir. Émission de reportage à écouter avec ses oreilles.
Si ça continue, va falloir que ça s'arrête, hein!
Le 16 décembre, nous étions dans les collines de Bouc-Bel-Air à l'occasion de mobilisation contre les boues rouges, en bordure de la décharge de Manche-Gary. C'est l'une des décharges où elles sont stockées, sans que le risque sanitaire pour la population ne soit suffisamment pris en compte. Une situation inacceptable pour l'association Bouc-Bel-Air Environnement, créée il y a un an, et soutenue par le comité d'intérêt de quartier de Gardanne, ainsi que par l'association de protection de l'océan, ZEA.
De boue rouge, et on voit bien que les arbres, malgré que ça a plu pas mal, sont encore rouges. Et donc, si on continuait tranquillement à se promener, on s'en retrouvait dans les tas d'alumine sans qu'il y ait eu aucune signalisation qui nous dise que c'est dangereux. Et on a constaté, moi je l'ai vu plusieurs fois, des gosses qui faisaient du motocross ou du vélo là-dedans. Quand j'ai repéré, j'ai vu aussi qu'il y avait des traces de chevaux, des crottes de cheval, donc les cavaliers des Ponas qui sont derrière, ils se promènent. Et en toute impunité, ils rentrent sur le site qui est dangereux. Les tuyaux que vous voyez là, c'est les tuyaux qui ont deux fonctions. C'est eux qui amènent les résidus de bauxite pour être traités par les filtres presse. Donc ça va directement, il y a une canalisation qui fait 3 km, qui part de l'usine et qui arrive directement dans les filtres presse. Il n'y a pas de camions, très peu de camions qui transitent. Tout passe par les canalisations. C'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose. Comme ils font la même chose pour aller dans la fosse des Calanques. Donc il y a une grosse canalisation, on ne le voit pas, mais l'eau transite. Et donc les boues rouges, elles arrivent dans les filtres presse, on extrait l'eau et on stocke le résidu solide. L'eau est ensuite réacheminée via des pompes et donc ces canalisations vers l'usine pour resservir et donc sont retraitées. Il y a une partie qui passe par là et l'autre partie qui passe vers la Luine. Si vous vous promenez vers le pavillon de chasse du roi René, en amont, il y a un site de réacheminement et on voit les canalisations qui remontent. Notre crainte, c'est que le jour où l'usine ferme, eh bien, ces canalisations ne fonctionnent plus. Les pompes ne fonctionneront plus. Donc tout ce qui arrivera en bas, eh bien, ça continuera à descendre, à savoir dans la nappe phréatique et dans la Luine.
Il y a des camions quand même qui amènent les boues rouges ici.
Oui, il y a parfois des camions, mais très peu en fait.
D'accord.
Le volume, c'est 300 000 tonnes par an via les canalisations, ce qui représente 3 semi-remorques complets par jour. Alors les wagons de chemin de fer que vous voyez, c'est en fait l'acheminement de la bauxite qui vient de fosses. Bauxite qui vient d'Afrique, de Nouvelle-Guinée pour être précis, donc qui est acheminé par bateau, qui est stocké sans aucune précaution à fosse, parce que c'est des gros tas qui s'envolent, il n'y a pas de bâche, il n'y a pas d'aspersion, donc ils subissent aussi les envolées de poussière. Ils les mettent dans des camions et ça arrive à Gardanne, à l'usine directement.
Ouais. Une question. Quelle certitude vous avez qu'en 2021 le site va fermer et qu'il ne sera pas reconduit dans son exploitation?
En fait, on n'a aucune certitude. C'est dans l'arrêté préfectoral, il y a une date, hein, c'est 8 juin, je crois, 2021. L'arrêté donne l'autorisation d'exploiter le site jusqu'en 2021. Notre crainte, c'est que ça soit reconduit comme ça l'a été pour les dépôts dans les Calanques. Et c'est pour ça qu'on se mobilise, pour que l'arrêté soit respecté. Moi, quand je fais un excès de vitesse, je prends une amende. Il n'y a pas de raison que l'industriel ne soit pas verbalisé et ne soit pas arrêté s'il ne respecte pas la réglementation.
De toute façon, ils ont annoncé qu'ils allaient demander une prolongation. Jusqu'à 2035, il a clairement...
Ils n'ont aucun intérêt à le fermer. Financièrement...
Eux, ils n'ont peut-être aucun intérêt à le demander, mais nous, on a intérêt par rapport à la santé... des bouquins et de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on a l'intention aussi de s'activer pour que la prolongation ne soit pas acceptée. C'est une prolongation, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une enquête publique. C'est aussi précisé et donc on agira pour que les éléments de l'enquête publique puissent permettre au gouvernement de trancher dans le bon sens et nous protège.
Est-ce que le préfet s'est exprimé pour le moment, le nouveau préfet?
Je ne sais pas, il y a un nouveau préfet qui a été nommé il y a très peu de temps. Et pour l'instant, on n'a pas contacté parce qu'il vient juste d'arriver. mais on ne manquera pas de le faire, on ne sait pas quelle est sa position. Sachant que le préfet, c'est le représentant de l'administration sur le territoire.
Est-ce que M. Hulot a donné de ses nouvelles?
Je vais laisser Olivier Dubuquois donner des précisions, parce que je pense qu'il a quelques nouvelles par rapport à ça.
Ah ben voilà, je vous ai demandé.
Donc oui, pour les nouvelles, ben justement, je vais rebondir sur ce sur quoi on était en train de discuter. Les nouvelles juridiques, c'est relativement simple. Vous savez qu'on a fait plusieurs recours au niveau des différents tribunaux administratifs, qui par chance, à chaque fois, nous ont donné raison, donc on a gagné. On a réussi à faire condamner à la fois Valls et Cazeneuve, et on a gagné aussi notre recours à la CADA. Et récemment, on a fait un recours au Conseil d'État dont on attend le retour. En gros, ces recours, c'était pour avoir accès à des documents qui avaient été mis en place au niveau des réunions interministérielles pour savoir qui était responsable en fait de la reconduite de ces pollutions et de l'utilisation donc de la conduite pour le rejet en mer et du stockage ici à terre. Donc on a les réponses, on sait qui était responsable et donc sur ces bases-là, on a commencé à construire notre stratégie juridique en attendant avec impatience l'audition au tribunal administratif. Ce qui s'est passé entre-temps depuis la dernière fois, c'est qu'on a eu en fait un retour sur nos recours de la part du préfet qui nous a dit, en gros, je vais le faire très, très simplement, circuler, il n'y a rien à voir. En gros, ils nous ont dit qu'on n'avait pas de légitimité à agir, première chose, ce qui est complètement faux, puisque tous nos recours en justice, on y incorpore bien sûr des gens qui ont un intérêt à agir, c'est-à-dire des habitants de Manche-Gary quand ça concerne l'arrêté qui traite du stockage à terre, mais on met aussi bien évidemment des pêcheurs quand il s'agit des rejets en mer, donc du deuxième arrêté. Donc sur cet aspect-là, on ne va pas avoir de mal à contredire le préfet. Et la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est qu'en gros, c'était un résidu inerte. C'est pour ça que je vous invite tous à ne pas utiliser le terme de résidu inerte. On a parlé plusieurs fois de désinformation. Il n'y a qu'une seule chose contre laquelle on se bat, c'est la pollution. Cette pollution, c'est une pollution de boue rouge. Que ce soit une partie liquide ou que ce soit une partie solide, il faut garder le terme boue rouge. Les mots ont leur importance. Surtout, ne parlez pas d'autre chose, quoi. C'est vraiment central. Donc, on va faire notre petite copie en réponse au préfet, qui a changé entre-temps, comme vous le savez. Et après, on va attendre cette audition avec grande impatience, puisqu'on est quasi certain, selon nos avocats, de gagner et de stopper et casser ces arrêtés, pour la bonne et simple raison que, vu ce qu'on a découvert dans les textes, il y a une jurisprudence qui nous permettra de gagner. Ça ne veut pas dire que le combat est gagné, loin de là, sachant que cette pollution est déjà là, qu'il va falloir certainement apprendre à vivre avec, que ce soit sur la partie maritime ou que ce soit sur la partie terrestre. On va essayer de limiter la casse. À mon avis, on a 3 ans, pas un de plus pour gagner ce combat. Donc on va essayer de faire quand même une action au pénal, même si dans 3 ans, on n'est pas sûr d'avoir de gros résultats. Une action au pénal, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il va falloir qu'on trouve des fonds. À chaque fois, une lutte, ça coûte énormément d'argent. Donc on va voir comment on peut faire. Donc ça, c'est la suite pour ce qui est, on va dire, de toutes les actions juridiques. La meilleure chose, ce serait une mobilisation citoyenne digne de ce nom. Alors bravo à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, mais on devrait être entre 5 et 10 000, c'est juste pas possible. 30 janvier 2016, on organisait une mobilisation en préfecture et on s'est retrouvé avec 2000 personnes. Il faut impérativement que vous en parliez autour de vous, il faut impérativement que lors des prochaines mobilisations organisées par Bel Air Environnement ou par Nouséa ou par d'autres structures, on soit plusieurs milliers. Tant qu'on n'aura pas un nombre significatif sur le territoire et qu'on n'arrivera pas à instaurer des rapports de force, il ne sert à rien de demander à Hulot une solution. Parce que c'est complètement utopique et illusoire. Nicolas Hulot, bien évidemment qu'il est contre cette pollution, mais il ne peut rien faire. N'oubliez pas dans quel gouvernement il est. N'oubliez pas que quand on a fait la mobilisation en janvier 2016, Macron est venu en personne pour soutenir cette industrie. Donc ne croyez pas une seule seconde que la solution peut venir d'un homme isolé dans un ministère, dans un gouvernement. C'est impossible. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force digne de son nom sur le territoire et une action juridique, c'est-à-dire son corollaire, on ne gagnera pas ce combat. Vous ne gagnerez pas ce combat. Donc voilà, il faut qu'on mobilise largement, 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 largement. Donc Hulot, j'ai eu Denis, donc son collaborateur qui traite le sujet mardi dernier, et j'ai eu Hulot ce matin. Je vais le réavoir aujourd'hui au téléphone. Il dit la même chose que je vous dis depuis longtemps, en discutant, puisque vous me le demandez personnellement. Il n'y a pas de rapport de force, il ne peut rien gagner. Donc soit il sort du gouvernement, il dit je suis contre les boues rouges, soit on a un atout au gouvernement, c'est lui, et il faut qu'on se débrouille pour réussir à mettre en place un rapport de force sur le territoire. C'est simple.
Je vous invite à poursuivre notre petite marche.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous avez un masque?
Pour me protéger de la pollution. De la pollution qui émane de ces champs d'épandage de boue rouge par la société Alteo et par bien d'autres sociétés avant elle.
Et vous savez quels sont les risques sanitaires?
Ils sont de plusieurs ordres. Ce sont surtout des particules très fines qui peuvent être soulevées par le vent et aller sur des zones habitées, notamment sur des écoles. On sait que les organismes des enfants ne sont pas formés, qu'ils sont spécialement sensibles aux microparticules. Et par conséquent, ces boues dont on demande la suppression depuis des années et des années sont dangereuses pour la santé. Il y a des solutions techniques qui existent.
Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites qui prouvent les risques sanitaires ?
Alors, il y a surtout une absence d'études sur ces risques sanitaires, mais les mener coûtent très cher et c'est pas aux citoyens à mener des études sur l'impact de microparticules d'une société privée, à mon avis.
Ce que je sais, c'est que
toutes ces grandes sociétés multinationales sont prêtes à passer sur la santé des gens, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine des glyphosates, par exemple, le produit qu'utilise Monsanto, que ce soit le sang contaminé il y a 20 ou 30 ans, où l'Institut Pasteur lui-même a vendu des doses de vaccins qu'il savait mortels pour ne pas perdre l'argent qu'il avait mis à les fabriquer, ce qui est lamentable. Et puis, la vache folle et l'amiante, il n'y a jamais de danger avec ces grandes sociétés au départ. Et c'est à nous, les citoyens, de prouver le danger de leurs actions. Mais prouver, faire des analyses sur l'effet, par exemple, des perturbateurs endocriniens sur la population des écoles, ça coûte un argent fou. Il faut des équipes de scientifiques et qui travaillent pendant des mois avec des échantillons significatifs. Ça demande une mise en œuvre extrêmement lourde que les citoyens ne peuvent pas envisager. Péchinet, autrefois, c'était le nom de l'usine d'aluminium. Péchinet est installée ici depuis, 70, 80 ans. Et, l'usine Alteo, c'est le nouveau nom de l'usine Péchinet qui s'est fait absorber. Ce sont des emplois. Je ne sais pas combien il y a de personnes à l'usine d'Alteo. Je l'ai visité il y a un an et demi. Ce que j'ai constaté, c'est la vétusté des canalisations, des installations qui étaient misérables.
Et après, il y a eu l'interview de plusieurs personnes environnantes qui ont dit ce voisin-là, il est mort. Tiens, c'est la base, il est mort. Tiens, lui aussi,
la rue de la mort, comme l'appelle.
Toutes ces grandes sociétés sont prêtes à tuer. Elles se moquent pas mal des gens. Leur affaire, c'est pas la santé publique, c'est le profit qui est le moteur de toute la vie économique d'aujourd'hui.
Jérémy, donc, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Et tu habites ici ?
J'ai habité ici, en fait. On a déménagé suite à la découverte de ma maladie, en fait. Mais déjà, avant que je tombe malade, de toute façon, on avait pour projet de déménager de là où on était, à Gardanne, très près de l'usine, dans une résidence qui s'appelle Les Ombrages, qui est derrière la poste de Gardanne et donc qui est assez proche du site. Et en fait, on voulait partir déjà avant que je tombe malade parce qu'en fait, on avait 70 mètres carrés, dans 20 mètres carrés de terrasse. Et ces terrasses, on n'en a jamais profité en 4 ans parce que dès qu'on mettait le nez dehors, ça sentait les odeurs d'émanation de l'usine. Il y avait de la poussière rouge de partout. Alors, sur la terrasse, effectivement, sur les voitures de la résidence sur lesquelles on était garés. L'année où il y a eu la canalisation qui a explosé, où il y a eu un rejet, c'était devant chez nous, devant la résidence. Donc, on a eu les voitures qui ont été inondées de boue rouge. On était très contents. Ça a été la croix et la bannière pour devoir faire nettoyer tout ça malgré le fait que la mairie se soit investie. Donc évidemment, le déclenchement de la maladie, de la leucémie, ça a été évidemment la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a été le déclencheur définitif de notre volonté de partir de cet endroit. Donc on est retourné, là on habitait avant, à la Bouilladis, on est un petit peu plus tranquille.
Est-ce que tu as porté plainte justement ? Ou est-ce que tu t'es non. douté que c'était à cause des pollutions, des résidus ?
Le problème, c'est que tout le monde s'en doute. Les malades, les médecins, quand on arrive à l'hôpital, les médecins, une des premières choses qu'ils nous demandent, c'était notre mode de vie, est-ce qu'on buvait, fumait, est-ce qu'on pratiquait du sport, est-ce qu'on était stressé et est-ce qu'on était exposé à des polluants ou pas. Donc les médecins eux-mêmes se doutent que ça peut faire partie des causes. Le problème, c'est que les causes de ce type de maladie-là sont multifactorielles. Il y a plusieurs causes. Démontrer que c'est cette cause-là plus qu'une autre, dans quelle proportion, d'un point de vue législatif, c'est un vrai casse-tête. Donc porter plainte, on sait très bien que de toute façon, ça, d'un point de vue judiciaire, ce seront des démarches qui n'aboutiront à rien de toute façon, tant que les connaissances médicales seront en l'état et tant que le système judiciaire aussi sera en l'état, quoi. À part le traitement de la maladie classique, le protocole classique qui est prévu pour ce type de maladie-là, il n'y a pas eu de recherche particulière de polluants liés au bout rouge, ce genre de choses-là.
Est-ce, quoi, que personnellement, toi, tu peux lancer ce genre de démarche pour essayer, avec peut-être d'autres malades, essayer de monter un recours collectif?
Ben, le problème, c'est qu'il faudrait que d'autres malades se manifestent aussi. Moi, je ne suis pas très au courant de ce genre de choses-là. C'est un peu pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, pour me renseigner, voir si effectivement il y avait d'autres cas comme le mien, d'autres personnes comme moi qui peuvent le faire aussi, qui ont le courage de le faire aussi, hein, parce que je dois avouer que d'un point de vue santé, je suis encore en traitement. C'était pas forcément top de me retrouver ici. Mais après, voilà, je voulais participer aussi parce que ben, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, évidemment. Et puis aussi parce que ben, il y a des tas de malades qui sont peut-être aussi encore en traitement à l'hôpital, qui ne s'en doutent peut-être pas aussi par manque de connaissances, par manque d'informations. Donc effectivement, je suis là aussi dans ce but-là, d'essayer de faire en sorte que ben, s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience-là ben, et qui peuvent se manifester, effectivement, pourquoi pas se réunir auprès d'associations. C'est un peu le but de ma démarche aussi.
Et concrètement, la leucémie, c'est quoi les conséquences? C'est quoi cette maladie?
C'est comme un cancer, en fait. C'est un cancer du sang, effectivement. C'est un cancer liquide. En plus, c'est un cas particulier, parce que c'est détecté de façon très violente. J'ai eu une double fracture spontanée des lombaires. Voilà, donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé par terre avec une douleur atroce. Et puis bon, après plusieurs analyses, biopsies, etc., on a détecté que c'était effectivement une leucémie fulgurante. On appelle ça une leucémie des gels, une LAL, pour être exact. Donc oui, c'est des maladies qui se traitent effectivement comme tous les cancers, par chimiothérapie ou par radiothérapie. Moi, pour ma part, c'était par chimiothérapie. Heureusement, j'étais traité très bien à l'IPC à Marseille. Ils ont très bons services et je m'en suis sorti. Bon, je suis en rémission depuis bientôt 2 ans maintenant. Et bon, heureusement, tout va bien, on touche du bois. Mais voilà, peut-être qu'il y a effectivement d'autres personnes qui ont été touchées aussi près du site. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites près du site, tout autour de l'étang de Berre, par exemple. Une étude, je ne saurais plus vous dire le nom exactement de la personne qui a publié cette étude-là, mais je me souviens très précisément des chiffres. C'est une étude qui avait démontré qu'en 6 ans, sur ce bassin de population-là, il y a eu une augmentation de 250% des maladies de type leucémie et cancer. 150%, je pense que même d'un point de vue scientifique, on est au-delà de du chiffre significatif. Là, je pense qu'on est dans la réalité, du concret. Donc voilà, je pense pas que effectivement ce genre de pollution-là, que ce soit à Gardanne, à Fos ou d'autres sites, ça n'ait pas d'incidence sur ce type de maladie-là, sur l'augmentation surtout de ce type de maladie-là, et surtout auprès des populations jeunes. Je me souviens qu'à l'hôpital où j'étais, il y avait des jeunes de 17, 18 ans, voire un petit peu moins, et les services étaient remplis, quoi, et ça ne désemplit pas. Donc voilà, je suis là aussi pour un petit peu parler de ça. Il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi effectivement l'aspect sanitaire pour les populations qui est très important, qu'il ne faut évidemment pas oublier.
Ici, on est devant l'entrée officielle du site. C'est bien, vous voyez bien qu'elle est fermée, clôturée et sécurisée. Ah non, mais c'était une blague, hein, ceux qui n'ont pas vu. Regardez à gauche, il n'y a pas de barrière en fait.
Une façade.
Voilà, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi et faire face aux photographes qui sont de l'autre côté?
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la pancarte?
Stop au rejet toxique dans nos collines.
Stop au rejet toxique dans nos collines.
Ah, je croyais qu'il ne fallait pas parler des rejets, mais des bouts.
Non, résidus.
Ah, résidus. Ah oui.
Inerte. Résidus inertes.
Il n'y a pas écrit bout rouge.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre? Sinon, on va reprendre notre petit
chemin. Ouais, moi j'ai une question.
Oui, ici.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on sait au niveau des risques sanitaires précis, en fait? Est-ce qu'il y a des études qui ont montré les risques?
Tu peux tenir la bande.
Alors, les risques sanitaires, en fait, ce qu'on sait, c'est que dans les bouts qui s'envolent, il y a des métaux lourds. Il y a du cadmium, il y a du plomb, il y a de l'arsenic, il y a de la radioactivité. On sait que ça, c'est dangereux. Par contre, il n'y a pas d'études de fait directement sur l'impact sur les populations. La simple raison, c'est qu'en fait, on sait très bien que les maladies qui sont induites par ces déchets sont multifactorielles. Et ce sera très difficile de démontrer que quelqu'un est malade uniquement à cause des bouts rouges. Parce qu'en fait, dans notre environnement, il y a la pollution due à d'autres industries. Il y a la pollution due au trafic routier, Et donc c'est difficile d'avoir un impact direct, sachant que c'est des maladies qui arrivent souvent à long terme. Quand on prend d'autres exemples qu'il y a eu dans l'industrie, ça survient 20 ou 30 ans après. Donc c'est pour ça qu'il faut appliquer un principe de précaution. On sait qu'il y a des métaux lourds, c'est dangereux, donc il faut prendre des précautions pour éviter que ça se passe.
Donc il y a des études indépendantes qui ont travaillé sur ces conséquences ?
Il y a des études qui ont été faites épidémiologiques et on a demandé qu'il y ait des études de fait.
Vous cassez les oreilles, Yann. Alors, en gros, ce qui a été fait, bon, on ne répétera jamais assez que le premier rapport sur la toxicité a été fait sur les rejets en mer. Et il s'appelle, c'est le rapport Cryo-Océan, du même nom de laboratoire, et il date de 1993. Ça, c'est la première chose. Les résultats de ce rapport, en fait, je vais le faire très court, c'est que les boues rouges, même à très très forte dilution, c'est-à-dire que si vous mettez 0,1 g par litre de boue rouge dans un environnement et que vous y plongez soit des oursins, soit des huîtres, vous avez une génotoxicité à plus de 94% environ, quoi. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une toxicité qui est reproductible de génération en génération. Les huîtres, par exemple, n'arrivent pas au stade coquillé. Elles ne se forment même plus en termes de coquilles, etc. Donc cet impact sur le vivant, on imagine bien que ça peut avoir des impacts similaires, on va dire, sur l'être humain. Mais celui-ci n'a jamais été encore quantifié. Il n'y a eu aucune étude, ni épidémiologique, ni participative, ni quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'avec une participation citoyenne ou juste des scientifiques, ni une étude véritablement sanitaire digne de ce nom. Ce que je disais juste avant, donc c'était sur la partie liquide. Donc sur la partie solide, si vous voulez, les études qui ont été menées, il y en a eu plusieurs à différentes époques et par différents organismes. Je vais en parler principalement de celles que je connais le mieux. Il y en a eu deux qui ont été diligentées par nos soins en 2014, avec des aides, des financements notamment du groupe ALE, donc du groupe des écologistes au niveau européen. Donc en gros, on a missionné la CRIRAD et Analytica, et on s'est rendu compte, en prenant à la fois de la bauxaline et à la fois des boues rouges, que les seuils de toxicité propres à des sols non contaminés n'étaient pas respectés. En fait, on était sur des sols contaminés, en termes de tout ce qui était métaux lourds bien sûr, mais plus particulièrement tout ce qui était titane, et chrome, principalement, on avait des doses qui étaient assez affolantes. Et donc ça, c'était une étude qui était menée par le laboratoire Analytica. Et pour ce qui est de l'étude de la CRIRAD, très rapidement, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous pouvez tout retrouver en ligne si vous tapez CRIRAD bauxaline et CRIRAD boue rouge. En gros, ils ont prouvé que la radioactivité naturelle renforcée de ces boues rouges et de cette bauxaline était à hauteur de 4 fois la radioactivité naturelle du milieu ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une radioactivité qui est plus importante liée à la présence de ces déchets. Et l'impact direct de la radiologie, bien sûr, se fait sentir vu les quantités de déchets qui sont stockés. Ça, c'est la première chose. Mais d'autre part, parce que ces déchets génèrent un gaz qui s'appelle du radon. Et donc, l'inhalation de ce gaz a un impact sanitaire certain. Il faudrait pouvoir le quantifier. Personne ne l'a jamais quantifié. Donc, de nos trois revendications du côté de ZEA, mais c'est une revendication commune aux différentes associations, donc aussi bien au CIQ de Gardanne que à Bouygues-Belleur Environnement, c'est d'obtenir une étude épidémiologique participative pour bien quantifier justement l'impact sanitaire, avoir une photographie, on va dire, justement de la santé des gens sur ce territoire. Et c'est ce qu'on espère faire payer à l'industriel avant qu'il mette la clé sous la porte. Pour vous donner une idée, une étude épidémiologique participative, ça coûte environ du type de celle qui s'est menée à Fos récemment, donc ce type d'étude assez brillante, ça coûte dans les 200 000 euros. Donc il faut trouver des financements auprès d'institutions comme l'ANSES d'ailleurs, qui peuvent être des financeurs de ce genre d'études.
À l'usine Gardanne. À l'époque, ça s'appelait Rio Tinto Alcante. Et on venait livrer ici, donc à Manche-Garry, mais on allait aussi livrer à Entre-Saint, donc une décharge. Et là où c'était cocasse, c'est qu'à Entre-Saint, quand on allait livrer, l'entrée principale d'Entre-Saint, il y a des portiques de sécurité qui détectent tout ce qui est de traces d'uranium, tout ça. Et forcément, on ne rentrait pas par là. on y faisait passer par une entrée dérobée. Ils avaient fait un trou dans le grillage au fin fond de la décharge et on rentrait par là. Et après, par contre, on ressortait par l'entrée principale. Forcément, il n'y avait plus de matière, donc ça ne sonnait pas. Donc c'est là où moi j'ai commencé à tiquer. En plus, là où je n'étais pas d'accord, c'est qu'on nous avait dit qu'on allait livrer les bouts rouges. Donc bouts rouges, quand vous êtes enfant, les bouts, il n'y a rien de dangereux, quoi. Je veux dire, c'est la boue, c'est la terre. Mais quand je vois qu'il y a ce genre de pratique, on nous fait une formation à l'usine avant de commencer à pouvoir travailler chez eux, qui donc nous habilite, on va dire, entre guillemets, à transporter ces matériels-là, à respecter certaines consignes, tout ça. Donc en fait, le patron, il se décharge sur nous, parce que nous, on devient habilité, et le patron s'en remet à nous. Donc c'est nous qui devenons professionnels, entre guillemets. Et donc ça, ça ne m'a pas plu du tout. Donc j'en ai référé à mon DRH. Et lui, pendant toute la semaine, c'est un chantier qui devait durer 2 jours et demi, et pendant toute la semaine, on a fait sa rotation. Toute la semaine, je l'ai sollicité pour qu'il vienne sur le chantier pour se rendre compte lui-même que ce n'était pas conforme, et il n'a pas jugé opportun de venir. Et par chance, à la fin, mais ce n'est pas pour des raisons écologiques, hein, c'est juste qu'ils avaient un quota de rotation à faire par jour, la société, pour que ce soit rentable pour eux, et comme on ne pouvait pas prétendre à faire ces rotations, du coup, nous, notre semaine d'essai s'arrêtait là. Mais il y a d'autres sociétés de la région de Gardanne qui l'ont continué pendant des années, je pense. Nous, ça a duré qu'une semaine par chance pour ma santé personnelle. Mais voilà quoi.
Au niveau de santé, quelle combinaison vous aviez au niveau de protection? Enfin, vous aviez quelque chose?
À l'époque, dans ma société, il n'y avait pas de porte de pays réglementaire. Donc nous, le jour qu'on est arrivé, on était en débardeur, t-shirt, pas de masque, rien du tout, le casque zéro, machin. Et suite à la formation qu'ils nous ont fait faire à l'usine Gardanne, on voyait bien qu'on était hors sujet, quoi. Il y avait un problème là-dessus aussi, quoi. Donc c'est ça qui, tous ces éléments réunis ont fait que voilà, j'ai tiqué et je me suis dit c'est pas possible. D'ailleurs, on s'était bien brassé avec le DRH à la fin de la semaine.
Donc il est dit que c'est pas une décharge mais un dépôt. Un dépôt, ça veut dire qu'on place et qu'on déplace. Il a été dit, et j'ai regardé sur internet comme tout le monde justement, sûrement, c'est que ces bouts rouges, on voulait les recycler d'une certaine façon et faire disparaître ces bouts rouges-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ce sera possible ou pas possible? Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire un recyclage?
Pour ce qui est du recyclage, eux, ils utilisent plutôt le terme de valorisation, pas le terme de recyclage. Pour ce qui est de la valorisation, les perspectives sont les suivantes. Ils pensent qu'ils peuvent faire avec ces résidus, ces bouts rouges. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas utiliser le terme de résidus, vous voyez, je le fais. Ils pensent qu'ils peuvent faire avec ces bouts rouges un produit commercial nommé Boxaline qui permettrait à la fois de dépolluer les eaux et les sols. Donc ils aimeraient utiliser les bouts rouges pour déphosphater certaines eaux. Et ils aimeraient utiliser les bouts rouges, notamment en sortie de mine, dans les endroits où il y a des mines et où il y a ce qu'on appelle de la lixiviation, c'est-à-dire que les métaux lourds sont charriés par l'eau et qu'on les retrouve après partout dans l'écosystème. Donc ils aimeraient mettre des bouts rouges en sortie de mine, c'est-à-dire des grosses quantités, des gros cubes de bouts rouges en sortie pour pouvoir les bloquer. Ce genre de valorisation, bien sûr, se fera via des communes, donc des communes qui sont impactées auront la possibilité, avec leur conseil municipal, de solliciter Alteo pour qu'ils viennent mettre une pollution supplémentaire sur leur territoire pour limiter une pollution existante. Donc autant vous dire que c'est une fausse solution. L'homologation de ces produits est en train d'être faite, elle est quasiment terminée, notamment par un monsieur qui est à l'INERIS et qui était anciennement au conseil scientifique de suivi, donc qui était plutôt dans la partie qui devait être la partie qui devait défendre les citoyens et les protéger. Il y a eu un jeu de chaises musicales, maintenant il est dans l'homologation de ses produits. Donc ça c'est pour les pistes de valorisation principales qui nous survendent. Les deuxièmes pistes de valorisation, elles sont beaucoup plus anecdotiques et très pernicieuses aussi. C'est notamment de faire des tuiles, c'est faire de la peinture, ils ont essayé plein de choses, hein. C'est de faire des granulats d'argile expansée dans la construction. Ils ont pensé en mettre, vous savez, dans les pots de fleurs que vous avez des petites billes d'argile, donc elles sont composées parfois à 5% de bouts rouges en termes de colorant, ils voudraient qu'elles le soient à 95%. Donc en fait, pour faire très court, toutes les pistes de valorisation, ce sont des pistes de dilution de la pollution. C'est-à-dire que c'est une façon de passer sous certains seuils et de diluer la pollution en passant sur certains seuils et avoir des déchets qui passent au statut de produit. Donc bien évidemment, toutes ces pistes de valorisation, nous on est complètement et formellement contre. Nous on est OK pour des pistes de valorisation qui sont sérieuses. C'est-à-dire s'ils arrivent à inerter ce produit en le mettant dans un béton, je ne suis pas expert, mais on est peut-être prêt à en discuter, il faut voir. Mais pour l'instant, la solution à court terme, c'est évidemment du confinement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on retrouve ces boues rouges sous différentes appellations commerciales ou sur différents produits sans le savoir, parce qu'il n'y aurait plus de traçabilité. J'ai pas envie demain d'avoir des tuiles sur ma maison qui comportent un peu de boue rouge, d'avoir un peu d'eau de solaprie dans mes parfums et ainsi de suite. C'est juste inenvisageable. Je pense aussi que ce sont des fausses pistes de valorisation parce que je ne crois pas à l'avenir de cette usine. Donc je pense qu'en fait c'est un positionnement pour gagner aussi du temps par rapport au gouvernement, montrer qu'ils sont assez exemplaires dans les pistes d'innovation, etc. Et je pense qu'en fait leur objectif il n'est pas là. Il est de poser des licences justement par rapport à ces pistes de valorisation, mais d'après aller les exploiter sur d'autres territoires. Je pense pas qu'ils vont pouvoir valoriser la totalité des boues rouges qu'il y a ici, mais par contre ils vont en valoriser certainement ailleurs.
Merci Olivier.
Merci Olivier pour cette précision scientifique. Je vous remercie tous d'être venus jusque-là pour se mobiliser contre ces boues rouges.
Bravo.
Et on reprend contact avec vous dès le mois de janvier, ceux qui veulent être actifs dans notre association et continuer le mouvement, l'amplifier pour qu'on puisse gagner et qu'en 2021 ça cesse. Merci, on va rentrer tranquillement sur Boue Bel Air.
Merci.
Non, mais tu fais pas dans le sac. Allez.
C'est la fin de cette randonnée toxique dans les boues rouges, un reportage de Thomas Dessé avec l'aide de Laetitia Lanfranchi. Merci à tous ceux qui ont fait entendre leur voix, ainsi qu'à Claire, Pierre et Clémentine pour leur aide. Ce reportage est issu de l'émission Du Tarpin sur la planche, à retrouver chaque mois sur Radio Zinzine et sur notre page Facebook. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.